de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal aujourd'hui, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bonjour, Joïtar. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Le rouble russe monte vers 78 contre le dollar américain, mais les actions chutent. Les autorités chinoises vont déployer des politiques de soutien à l'industrie des neiges. L'ambassade d'Indonésie à Canberra organise des séances d'orientation pour les boursiers australiens du PCN. Le ministre coordinateur Luhut accueille le sommet BNEF Net Zero à Bali en novembre 2022. L'industrie de défense indonésienne vise à être classée dans le top 50 mondial. La loi TPKS devrait être un cadre juridique complet pour protéger les personnes vulnérables. Et Sri Mulyani appelle à la nécessité de surmonter la crise potentielle de la sécurité alimentaire. Bonjour, Jutard, voici la nouvelle en complet. Le rouble russe a augmenté vers 78 contre le dollar américain en début de séance mercredi heure locale, tandis que les indices boursiers ont prolongé leurs pertes, alors que les marchés surveillaient les développements autour de l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. La Russie est confrontée à une inflation galopante et à une fuite des capitaux avec d'éventuels défauts de paiement après que l'Occident a imposé des sanctions sévères à Moscou pour avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février. La Chine adoptera un certain nombre de politiques pour soutenir l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, NEV, y compris l'extension des politiques préférentielles pour la taxe d'achat NEV. Cela a été transmis par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information mardi 19 avril. Le pays continuera à tester le nouveau modèle de charge de batterie NEV dans le cadre des efforts visant à stabiliser les chaînes d'approvisionnement et l'industrie, a déclaré Luo Chunqi, un responsable du ministère, lors d'une conférence de presse, selon Luo. Le secteur chinois des NEV entre dans une phase de développement à grande vitesse et à grande échelle. Le secteur devrait maintenir un rythme d'expansion rapide en 2022. L'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI, à Canberra assure l'orientation des 15 étudiants australiens bénéficiaires de la bourse New Colombo Plan NCP qui étudieront en Indonésie. L'attaché à l'éducation et à la culture de l'ambassade d'Indonésie à Canberra, Mohamed Najib, a déclaré que cette année serait la première année à envoyer des étudiants australiens en Indonésie depuis la pandémie. Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Canberra obtenu à Jakarta mercredi, Najib a déclaré que pendant les deux années de la pandémie, le gouvernement australien n'a pas envoyé d'étudiants en Indonésie car la frontière a été fermée pendant près de deux années. Le communiqué de presse a expliqué que le New Colombo Plan est en bourse du gouvernement australien pour les étudiants de premier cycle qui étudient dans des universités australiennes pour étudier dans les pays de l'Indo-Pacifique pendant un an maximum. Le but de la bourse est d'accroître les connaissances et l'expérience des étudiants australiens concernant la région Indo-Pacifique. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, en tant que président du comité d'organisation du G20 en Indonésie, s'est félicité de la tenue du premier sommet Bloomberg NEF, BNEF Net Zero à Bali le 12 novembre 2020. Cette activité est conforme à l'engagement de l'Indonésie à atteindre la neutralité carbone. Cela a été transmis par le ministre Luhut lors de l'annonce du sommet Bloomberg NEF Bali à New York, États-Unis, le lundi 18 avril 2020. Le ministre Luhut, dans une déclaration écrite à Jakarta, a espéré mercredi que, grâce à ce sommet, il y aurait une contribution des entreprises leaders mondiaux et investisseurs pour atteindre la neutralité carbone, dans le but de faire avancer la reprise mondiale post-pandémique. L'Indonésie a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone mondiale en 2050 et de maintenir l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Cela se manifeste également dans les trois principales priorités pour la tenue du sommet du G20 en 2022, en particulier au point de transition énergétique zéro propre. L'entreprise d'État de l'Indonésie BUMN, nommée Defense Industry Indonesia DefenID, qui vient d'être lancée sur Abaya, vise à se classer dans le top 50 mondial. Le président Joko Widodo, lorsqu'il était présent lors du lancement de DefenID, qui a eu lieu dans le hangar de l'installation sous-marine de PAL SA, Indonésie, à Surabaya, a révélé mercredi qu'il attendait la réalisation de BUMN Holding DefenID, Land Industry SA agit en tant que société holding soutenue par quatre autres entreprises publiques, à savoir Pindad SA, Dirgantara Indonesia, PAL Indonesia et Dahana SA. En outre, DefenID devrait être en mesure de renforcer l'indépendance de l'industrie de la défense, qui peut répondre aux besoins nationaux et s'est prête à pénétrer les marchés étrangers. Pour le président Jokowi, le plus important est que l'existence de DefenID puisse réduire les importations d'équipements de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a déclaré que la détention de BUMN DefenID devrait être une solution pour accélérer l'indépendance de l'industrie de la défense indonésienne. La députée pour la protection des droits des femmes au ministère PPPA, Ratna Susianawati, espère que la loi pénale sur la violence sexuelle, la loi TPKS, pourra devenir un cadre juridique complet qui protège les femmes, les enfants et les personnes handicapées contre la violence sexuelle. Dans le talk show de la commémoration de la journée Kartini intitulée « Stop à la violence sexuelle contre les femmes et les enfants » auquel a participé mercredi Jakarta, a-t-il expliqué la loi TPKS parle de l'amont à l'aval de la prévention, de la gestion, de la récupération ainsi que de l'application de la loi dans le cas de violences sexuelles. Elle a déclaré que la force de la loi TPKS était l'esprit de se ranger du côté des victimes de violences sexuelles. La force de cette loi est la partisanerie, la manière de garantir le respect des droits des victimes de violences sexuelles et son esprit est de garantir l'intérêt supérieur de toutes les victimes de violences sexuelles. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, lors de l'événement Tackling Food Insecurity, qui fait partie des réunions de printemps 2022 du FMI et du GBM à Washington DC mardi, a appelé à la nécessité de faire face à la crise potentielle de la sécurité alimentaire à la suite de la Russie, guerre d'Ukraine. Sri Mulyani, dans une déclaration officielle reçue à Jakarta, a déclaré mercredi que la guerre et les diverses actions qui l'accompagnent ont déclenché une augmentation du prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Dans une autre discussion, lors de la réunion de la coalition des ministres des Finances pour le changement climatique, elle a déclaré que la tarification internationale du carbone devrait être plus équilibrée en tenant compte de la capacité de chaque pays, notamment à réaliser une transition juste et abordable. Pendant ce temps, Sri Mulyani et le ministre finlandais des Finances ont présidé la réunion de la coalition visant à discuter des efforts de la coalition pour répondre à la crise énergétique qui s'est produite sans avoir à sacrifier les objectifs à moyen terme pour faire face aux problèmes de changement climatique. Bonjour, Jouitard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Saya Zudit Nak Bonsoir, voici le coin diplomatique et encore le titre. Le pavillon indonésien anime l'exposition du Vietnam 2022. La 31e exposition du Vietnam s'est tenue à Hanoï au Vietnam du 13 au 16 avril 2022 et a été officiellement inaugurée par le ministre du Commerce et de l'Industrie du Vietnam, Nguyen Hong Dien. L'exposition de Vietnam 2022 a présenté 410 entreprises multinationales et 380 stands d'exposition de 15 pays. Le pavillon indonésien a présenté divers secteurs de produits et de services de 12 entreprises indonésiennes dans les domaines de l'immobilier, des matériaux de construction, de l'alimentation animale, de l'éducation, des produits pharmaceutiques, des batteries sèches et hybrides, et des aliments et boissons. Les entreprises présentes au Vietnam depuis longtemps sont comme Chi Travis Lake City Development Co. Ltd, Tang Long Cement Joint Stock Company, Cement Indonesia Group et Jap Pho Comfit Vietnam Co. Ltd. Cette activité a encore renforcé leur présence au Vietnam. Pour un certain nombre d'autres entreprises indonésiennes, cette exposition est l'occasion de présenter des produits relativement nouveaux et d'élargir leur réseau de distribution. La particularité de cette exposition est la présence d'une école pilote spéciale qui a réussi à attirer l'attention des visiteurs pendant l'exposition, ainsi qu'à se connecter avec un réseau de partenaires potentiels. Ce grand intérêt est dû à la croissance du secteur de l'aviation au Vietnam, qui devrait être la plus élevée de la région de l'Asie du Sud-Est. Selon l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam, Denny Abdi, l'exposition du Vietnam 2022 est la première à se tenir physiquement, après 2 ans de tenue en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Pendant les 4 jours de l'exposition du Vietnam 2022, le pavillon indonésien a réussi à enregistrer des transactions potentielles d'une valeur d'1,65 millions de dollars américains, soit environ 23,7 milliards de rupiah, ainsi que d'élargir les réseaux commerciaux entre les exportateurs indonésiens et les partenaires potentiels du Vietnam. La participation de l'Indonésie à l'exposition du Vietnam 2022 devrait offrir des avantages optimaux en encourageant l'amélioration de l'économie indonésienne. C'est le c'était le coin diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 21 avril, la journée de Kartini. Chaque année, le 21 avril, le peuple indonésien commémore l'anniversaire de Raden Ajeng Kartini, la pionnière de l'égalité des sexes en Indonésie. Elle est née à Jepara, dans le centre de Java, le 21 avril 1879. Habis gelap terbitlah terang, au delap sécurité à la lumière est le titre d'un livre tiré d'une collection de lettres de Raden Ajeng Kartini à ses amis aux Pays-Bas. Ces lettres prouvent à quel point Carter ne voulait libérer son peuple de la discrimination qui avait été enracinée à son époque. La lutte de Carter a également été prouvée par la création d'écoles gratuites pour les filles à Jepara et Rembang dans le centre de Java. Compte tenu de l'ampleur des services de Kartini à la nation indonésienne, le gouvernement du président Sukarno a désigné Kartini comme une héros de l'indépendance nationale et a déterminé que l'anniversaire de Kartini devrait être commémoré chaque année, qui devant plus tard connu sous le nom de Journée de Kartini. Passons maintenant à l'événement du 21 avril 2009, la Bibliothèque numérique mondiale est inaugurée. La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique inter-État gérée par l'UNESCO et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Cette bibliothèque a été inaugurée le 21 avril 2009 et se veut une source de référence pour les documents primaires de divers documents mondiaux importants qui peuvent être accédés gratuitement. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 avril 2019, l'attentat à la bombe au Sri Lanka. Trois églises au Sri Lanka et trois hôtels de luxe dans la capitale, Colombo, ont été la cible d'un attentat suicide à la bombe le 21 avril 2019. Peu de temps après, il y a une petite explosion dans un complexe résidentiel à Dematagoda et une maison d'hôte à Dehiwala. Au total, 267 personnes ont été tuées, y compris au moins 45 ressortissants étrangers, 3 policiers, 8 bombardiers et au moins 500 autres blessés. Selon l'agence de renseignement de l'État, une deuxième vague d'attaque était prévue, mais a été empêchée par les raids gouvernementaux. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Do do jadi teman hidupku. Kau lah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku.
Voilà, chers auditeurs, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour nous de vous présenter mon Indonésie. Et pour le titre, BMKG présente un système d'information météorologique maritime pour soutenir le retour en ville natale par la voie maritime en toute sécurité. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, a introduit un système d'information météorologique maritime spécifiquement pour le transport maritime, à savoir les prévisions de route maritime Indonésie, INAMARFES BMKG. Ce système d'information est destiné à la sécurité du transport maritime afin que le retour en ville natale dans le cadre de l'Idul Fitr 1443 Hijriah soit à l'abri des impacts du mauvais temps. Le directeur du Centre de météorologie maritime du BMKG, Eko Prasetyo à Jakarta, a déclaré lundi que INAMARFES de BMKG permettra aux opérateurs maritimes d'obtenir plus facilement des informations météorologiques maritimes basées sur l'impact, facilement accessibles et rapides. Les utilisateurs ou les capitaines de navires peuvent accéder aux trois fonctionnalités principales du système d'information. Ces fonctionnalités comprennent le système d'information météorologique maritime basé sur l'impact, le document de route météorologique maritime, le document de recommandation de navigation. Dans la fonctionnalité du système d'information météorologique maritime basé sur l'impact, l'utilisateur ou le capitaine pourra planifier la route de navigation à traiter automatiquement, ainsi que connaître les informations météorologiques maritimes basées sur l'impact telles que les vagues, les courants et les vents sur la route de navigation. De plus, les utilisateurs peuvent également connaître automatiquement la valeur du score de sécurité du navire basé sur des spécifications du navire, de l'utilisateur et de l'impact de la météo maritime lorsque le navire naviguera. De plus, sur la fonctionnalité du document de route météorologique de navigation, les utilisateurs peuvent obtenir automatiquement via INAMARFES BMKG un document d'information météorologique de la route de navigation ou route forecast sous forme de copie électronique. Ce document contient les prévisions météorologiques pendant le voyage, les prévisions météorologiques du port de départ et les prévisions météorologiques du port d'arrivée. Pendant ce temps, dans la fonction du document de recommandation de navigation, les utilisateurs peuvent savoir automatiquement si la route de navigation prévue est sûre ou non. Ces informations sont obtenues sur la base de l'impact de la météo maritime sur les routes maritimes ainsi que des spécifications du navire de l'utilisateur. Si l'itinéraire prévu est sûr ou safe, alors l'utilisateur peut télécharger automatiquement la lettre de recommandation de navigation via INAMARFES BMKG. Cependant, si l'itinéraire prévu n'est pas sûr, la lettre de recommandation de navigation ne sera pas émise. De plus, les utilisateurs recevront également des informations indiquant que l'itinéraire prévu n'est pas sûr pour naviguer ou not safe. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you. biasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup.
D'accord, chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez, cette chanson? C'était belle? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Chers auditeurs, cette édition de Ramadan ne vous emmène qu'en dans une visite religieuse dans l'une des mosquées uniques de Salatiga, au centre de Java, à savoir la mosquée Klenteng ou la mosquée du Temple. Ce bâtiment de la mosquée a une superficie d'environ 300 mètres carrés et est dominé par la couleur rouge. Les ornements et accessoires de la mosquée ressemblent à un temple où les Chinois adorent. Cependant, un panneau indiquant la mosquée Klenteng ou Masteng que le bâtiment est utilisé pour le culte musulman. L'emplacement est sur la rue Abiyoso numéro 14, le village de Duku, le district de Sidomukti, en ville de Salatiga. Masteng a été construit en 2005 par Yusuf Hidayatullah après son retour de Terre Sainte. Yusuf Hidayatullah etang Chinois qui s'est converti à l'islam initialement ce bâtiment s'appelait Wisma Majlis Taklim Hidayatullah mais les habitants l'appelaient Masteng pour le rendre plus facile à prononcer. Après le décès de Yusuf Hidayatullah, le terrain de 1700 m² où se trouve le bâtiment de la mosquée Klenteng a été acheté par le frère de Khalid, Agus Ahmad, fin 2020. Jusqu'à maintenant, la mosquée tient toujours fermement en conservant sa forme unique. Cette mosquée est une acculturation culturelle conforme à la ville de Salatiga, à savoir la tolérance. Maintenant, les terres restantes sont également développées pour l'autonomisation et l'éducation. Actuellement, à côté de la mosquée du Temple, la construction d'un bâtiment est en cours qui serait un internat islamique basé sur les technologies de l'information. Des activités religieuses y sont également organisées. De plus, en ce mois de Ramadan, il y a aussi de nombreuses activités. Taraweh, rompre le jeûne ensemble, réciter et lire le Coran. Ces auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Berkampun daiku, jangan pernah lepas.
bersinar. Remas sayapku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Voilà, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter l'exposition internationale d'art calligraphique. Du 15 au 22 avril 2022, 102 artistes de divers pays ont animé l'exposition de calligraphie contemporaine sur le thème « La puissance du Coran » à Jakarta Islamic Center dans le nord de Jakarta. L'ouverture virtuelle de l'exposition a été assistée par le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan. Il espère que l'exposition deviendra une attraction pour le tourisme religieux à Jakarta ainsi que pour l'alphabétisation visuelle. À cette occasion, il a également mentionné que l'art de la calligraphie est un art qui contient des symboles islamiques. L'art de la calligraphie cite généralement des versets du Coran et de la Sunna du prophète Mahomet. L'espoir est qu'il puisse servir le rappel pour imiter et exécuter toute la Sunna et puisse augmenter la piété pour tous. Le président du comité de l'exposition, M. Arif Syukur, a expliqué que 71 exposants venaient d'Indonésie et les 31 autres de 25 pays, y compris l'Inde, la Malaisie, l'Iran, la Tunisie, le Bangladesh, l'Égypte, l'Irak, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Dans l'exposition, un certain nombre d'œuvres de calligraphie ont été exposées. Il y a une calligraphie sous la forme des personnages du président Joko Widodo et Habib Rizik Syihab. En outre, il y a des peintures d'autres personnalités, telles que le ministre de la Défense Prabowo Subianto, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et Didi Corbusier. Selon Arif Syukur, c'est la première fois que l'exposition de calligraphie se tient hors ligne à Jakarta Islamic Center, parce que pendant la pandémie, cette exposition s'est tenue en ligne. Le comité espère qu'en organisant cette activité, Jakarta pourra devenir un centre pour l'art de la calligraphie islamique. Outre la possibilité de voir l'exposition en direct à Jakarta Islamic Center, les résidents peuvent également visionner l'exposition en ligne via le site https://iae.web.id. L'exposition internationale de calligraphie contemporaine a été organisée par le Centre pour l'étude et le développement de l'islam et cet événement est l'ouverture d'une série d'autres activités sur le thème « Le pouvoir du Coran ». Selon Arif Syukur, présenter les œuvres existantes à travers ce thème peut faire prendre conscience aux musulmans qu'il ne suffit pas de remplir la littératie textuelle personnellement alfabetisasi visual, notamong dang la dakwa, siar utilizang lar e egalomong important. Pondang setang le chef du centre d'études et de développement islamique de Jakarta, Kiai Haji Muhammad Subki a déclaré que cette activité était la première partie d'une série d'agenda de Nuzulul Quran. À l'avenir, de nombreuses autres activités seront organisées par Jakarta Islamic Center. Chers amis, c'est la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Corco, de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bon, d'accord, chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Alors, c'était belle la chanson? Vous aimez? Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Chandra Darusman. Chargé tard, la chanteur dont le nom complet est Chandra Nazaruddin Darusman est également connu comme musicien, pianiste et compositeur. L'une des chansons qui a frappé lorsqu'il a eu une carrière solo intitulée Kau est contenue dans l'album Indahnya Sepi. Cette chanson est incluse dans la liste des 150 meilleures chansons indonésiennes compilée par le magazine Rolling Stone Indonesia, où la liste contient les meilleures chansons indonésiennes de tous les temps. La chanson Kau a été ramenée par Bunglon, un groupe de musique populaire des années 1990. Bon, chers auditeurs, voici Chandra Darusman va chanter une chanson intitulée Kau. Bonne écoute.
Kau sudutkan hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalangkan hati insan yang ada telah lama bersamaku. Tetapkan titianku bersama kasihku tertuju bersatu. Sama alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di kala diri ini tak terpadu janji kenyataan. Jadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini telah terpadu janji. Tak mungkin kan ku ingkari apa daya ku harus menghadapi.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, et joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.